Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Christophe.
Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
Bonjour Christophe.
Moins d'un an après avoir remporté les élections générales turques, le parti du président Erdogan vient d'essuyer une défaite historique lors des élections municipales du 31 mars. L'AKP, le parti de la justice et du développement, a cédé nombre de municipalités à un autre parti, kémaliste, nationaliste, laïque et social-démocrate, le CHP ou Parti républicain du peuple. En nombre de voix, ce parti d'opposition a totalisé 37,7% des suffrages exprimés contre 35,5% pour l'AKP. Ainsi, Istanbul, qui avait été ravi au parti présidentiel lors des précédentes municipales, reste aux mains de l'opposition, à l'instar de la capitale, Ankara ou d'Izmir, et des bastions de l'AKP sont passés au CHP. Un désaveu cinglant reconnu par Erdogan en personne, un signe peut-être de la relative bonne santé de la démocratie turque et un avertissement des électeurs à leur président, incapable d'enrayer la crise économique qui frappe le pays. Bonjour Ariane Bonzon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de la Turquie, on peut vous lire régulièrement dans Slate et dans le monde diplomatique. Pour commencer, je voudrais vous poser une question. Pourquoi ces élections municipales sont si importantes en Turquie? Est-ce que les résultats sont le fruit d'enjeux locaux ou faut-il y lire un rejet de l'AKP et d'Erdogan en général?
Eh bien, il y a d'abord un résultat paradoxal. L'année dernière, l'opposition s'est présentée d'une façon unie. Elle a perdu. Et là, au contraire, tous les partis de l'opposition se sont avancés en rang dispersé, si vous voulez.
Faites référence à la présidentielle, hein, l'an dernier.
Donc ça, c'est le premier paradoxe. C'est-à-dire, l'année dernière, une alliance d'opposition, et là, des partis dispersés. Cela dit, c'est un scrutin local. Il y avait 4 bulletins de vote à mettre dans l'urne. Un pour les conseillers municipaux, un pour les conseillers régionaux, provinciaux, un pour les maires de métropole, et enfin un pour ce qu'on appelle les mouktars, qui sont des sortes de petits notaires de quartier. Donc c'est évidemment un vote de proximité qui, effectivement, récompense ou au contraire amende une politique locale. Ça, c'est extrêmement important. D'autre part, on n'a pas un bouleversement extraordinaire du paysage politique. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette tripolarisation entre l'Ouest républicain, qui est du Parti républicain du peuple, le CHP, l'Est, qui est le parti kurde, pro-kurde, et le centre de la Turquie, qui est plutôt tenu par l'AKP. Cela dit, c'est vrai que le CHP, le Parti républicain du peuple, a remporté un certain nombre de bastions du parti au pouvoir, l'AKP, et des grosses villes. Il a 35 villes, c'est assez énorme. Et c'est en ça qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé.
Mais est-ce que le fait aussi que Erdogan s'engage personnellement dans cette campagne pour les municipales, on l'a vu à Istanbul, il a fait plusieurs meetings, ne montre pas quand même aussi qu'il y a un rejet de sa personne en tant que président et de sa politique aussi?
Alors, il s'est en fait paradoxalement moins engagé que précédemment. Ça, c'est un premier point. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il est le président du parti. En 2017, il a fait une réforme constitutionnelle où il s'est déclaré président du parti, ce qui n'était pas le cas avant. Or, avant, il s'imposait autant, même plus dans les campagnes électorales. Là, on peut dire qu'à la limite, c'est justifié, puisqu'il est président du parti au pouvoir, AKP. Donc, effectivement, il peut y avoir un rejet. Une fois de plus, si vous voulez, c'est aussi sur la politique, la gestion des municipalités et évidemment sur la crise économique que beaucoup de gens se sont prononcés, sachant qu'il y a un taux d'abstention assez important, c'est-à-dire que d'habitude, la participation est énorme, c'est autour de 85-90 qui ferait rougir d'envie nos démocraties. Là, c'était 76% de participation, ce qui est quand même un taux très faible. Et on pense qu'il y a un certain nombre de supporters de l'AKP, du parti au pouvoir de M. Erdogan, qui se sont abstenus d'aller voter. Parce que eux, ils peuvent pas voter pour l'opposition. Il y a quand même une bipolarisation entre deux camps. Et l'idée d'aller voter pour un parti nationaliste républicain, leur parti républicain du peuple, ça, ils peuvent pas. Beaucoup se sont sans doute abstenus. Et un petit nombre a voté pour un parti beaucoup plus islamiste politique, on pourra y revenir, qui vient de se créer.
Un parti qui s'est créé à la droite de l'AKP. Jean-Marie, ces résultats qui montrent une défaite d'Erdogan, on parlait beaucoup de la dérive autoritaire du président turc. Est-ce que finalement, c'est pas un bon signe de vitalité démocratique en Turquie, malgré la manière dont le président peut conduire les affaires intérieures?
Sûrement, je souriais quand Ariane a dit que c'était un mauvais score de 76% de participation. Je veux dire, c'est un score rêvé en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Donc, dans la question que je me posais essentiellement, c'est ce n'est pas la première fois que Erdogan perd des élections municipal. Istanbul, c'est une ville qui a passé à l'opposition, il y a déjà un mandat ou deux déjà. Donc, simplement après ces défaites, il avait plutôt durci son régime. Là, on l'a vu venir sur les estrades, la main sur le cœur, disant « il faut respecter le peuple, il faut respecter ce qu'a dit le pays ». Donc, un discours qui était plutôt, à la fois de prendre acte de ce qui s'était passé, et puis de promettre peut-être d'être un peu plus conciliant avec les oppositions et ne pas continuer d'envoyer des journalistes en prison ou pourchasser ceux qui auraient été complice d'un putsch très ancien ou d'une tentative de putsch assez ancienne, mais qui continue à faire que des gens peuvent aller en prison. Donc voilà, c'est la question. Est-ce que de cette défaite, il va reprendre du terrain en durcissant à nouveau, en continuant sur sa voie autoritaire, ou bien est-ce qu'au contraire, il va lâcher du lest et, en effet, comme il l'a promis ou comme il a semblé le promettre, tenir compte des urnes?
Oui, parce qu'il a parlé de tournant, le président Erdogan. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce tournant, selon vous?
C'est une fois de plus, il se distingue de la Russie et de la Chine, c'est-à-dire que c'est une démocratie, au sens que le scrutin est important, mais l'état de droit n'existe pas. Et je ne vois pas comment il va rétablir l'état de droit avec un certain nombre de gens en prison. D'ailleurs, on l'a vu très très vite. D'abord, il a dit en fait, le PKK et les gulenistes, on va continuer à les combattre. Et deux jours après, il a essayé, dans une ville du sud-est, dans la région kurde, il a déclaré que celui qui était élu avec plus de 50%, qui était donc un représentant, un élu du parti kurde dans le sud-est, allait être enlevé, enfin, il voulait le faire chuter sous les de son pouvoir, et nommé à sa place le numéro 2, qui n'avait que 30% et qui était un élu du parti au pouvoir de l'AKP. Et alors, il y a eu des grandes manifestations et finalement, il a fait marche arrière. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il aurait persisté peut-être dans d'autres temps. Là, il a fait marche arrière. Il y a grandes démonstrations qui ont dit non, on l'a élu. Bon, alors, il va sans doute trouver d'autres façons parce que
en général, l'idée... il passe par les juges. Il fait intervenir voilà, les juges et la absolument. Justice comme il l'avait fait pour Istanbul.
Absolument,
déjà.
Comme il l'a fait avec des procès qui sont pas très valides hein, et qui ont été souvent épinglés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est assez important parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il avait enlevé une quarantaine comme ça, il avait destitué une quarantaine d'élus du parti kurde, et à la place, qu'il avait mis non pas des élus, mais des administrateurs. Et ces administrateurs ont été détestés dans le sud-est du pays. Et c'est pour ça qu'il a perdu, parce qu'il ne faut pas croire que les régions kurdes ne votent pas pour l'AKP. Il y a un vrai vote, c'est le second parti dans les régions kurdes. Mais le fait d'avoir imposé ces administrateurs, qui n'ont peut-être pas toujours été réglo, ça a neutralisé une partie du vote AKP.
Alain, on a parlé de la crise économique qui touche la Turquie. Dans quel état elle est la Turquie actuellement?
La Turquie, sur le plan économique, le trait dominant, il y en a deux, si vous voulez. C'est l'inflation d'abord. Il ne faut pas oublier qu'en 2022 encore, l'inflation était de 80%. Ça veut dire que votre pouvoir d'achat est diminué de 80%. Alors la Turquie, c'est une base industrielle très forte, c'est une base agricole aussi, c'est un pays talentueux, plein d'entrepreneurs, et souvent les entreprises, notamment dans certains secteurs, mais y compris les BTP, qui figurent parmi les plus modernes du monde et les plus conquérantes. Mais sur le terrain, sur place, quand vous allez au supermarché, notamment, vous savez, l'AKP adore les malls. Hein, l'AKP, c'est la mosquée, et à côté de la mosquée, le mall commercial. Et quand vous allez au mall, alors aujourd'hui, c'est plus 80%, la perte de valeur de la monnaie, mais c'est quand même 67%. Ajoutez à ça la nécessité pour l'État turc de payer, d'éponger un déficit chronique et donc un besoin de devises. Et donc la Banque centrale, contrairement à ce que voulait Erdogan, qui a viré plusieurs fois d'ailleurs, la dernière fois c'était une directrice de la Banque centrale, mais qui a chassé plusieurs fois les patrons de la Banque centrale dans le pays, a dû accepter pour récolter les devises dont il a besoin, pour vendre du bon du trésor turc sur les marchés, il a dû accepter des taux d'intérêt très élevés. Donc vous avez les taux d'intérêt élevés et vous avez une inflation comme on en a rarement vu, si on sait plus ce que c'est, nous, de l'inflation à 67%. Et donc vous avez des gens, qui c'est pas qu'ils font pas deux repas par jour, ils en font un seul. C'est des choses comme ça, vous voyez. Et donc voilà, la situation économique, elle est assez difficile. Cela dit, on oublie toujours, me semble-t-il, particulièrement en France, le dynamisme entrepreneurial de la Turquie. Et pour le reste, ce qui me frappe, on peut donner quand même un chiffre, c'est le parti républicain du peuple, le parti nationaliste, kémaliste,
CHP.
CHP fait 37,5% des suffrages, si on veut l'étendre au niveau national. Et l'AKP fait 35,5%. Alors, il y a deux manières d'interpréter ça, si on cherche à donner une signification nationale, si vous voulez, à ce scrutin. Il y a de dire, bon, bah, au bout de 20 ans de pouvoir et avec un taux d'inflation de 67%, c'est quand même pas mal encore comme base. Mais il y a une deuxième manière de regarder le scrutin. C'est de dire, comme vous le disiez, l'État, c'est le système vraiment de l'illibéralisme. C'est-à-dire, les élections sont relativement libres, étant entendu que la télévision, la radio d'État sont pour l'AKP, étant entendu que tous les marchés publics vont à la taper. Autrement dit, vous avez l'appareil de l'État, même pour les élections locales, qui est au service de l'AKP. Vous avez les médias sous contrôle, ceux qui sont privés. On enlève la publicité, aucune campagne d'État ne leur est attribuée. Ce ne sont pas des marchés publics libres. Et enfin, à l'université, les professeurs aussi sont sous surveillance. Donc, c'est cette idée que si je gagne les élections, l'État m'appartient, y compris les juges, y compris la police, y compris les médias, y compris la radio et la télévision. Dans ces conditions-là, réaliser 37,5% des suffrages, c'est quand même pas mal. Et ça veut dire quelque chose aussi sur la société turque, j'imagine. Il y a quand même un attachement assez fort à ce qu'a été le principe de séparation de la mosquée et de l'État. Il est toujours là, près de 38% de l'électorat. Donc c'est intéressant. Avec un Erdogan qui, à sa manière, à sa façon, c'est-à-dire ça ne se passe pas du tout comme en Iran, c'est impossible, c'est un pays beaucoup plus, un régime complètement différent, mais qui essaye quand même, discrètement, ici et là, d'islamiser la société. Et on voit une résistance formidable, alors peut-être surtout à l'Ouest, mais enfin elle est là, cette résistance.
Elle a tout à fait raison, il y a un rapport particulier des Turcs à leur État. D'ailleurs, on l'appelle Baba, le papa. Donc ça, c'est très important. Et quand on regarde les chiffres, plus de 40% se disent kémalistes, c'est-à-dire que c'est vraiment l'État laïque. Plus à peu près 40% se disent nationalistes. Et en fait, c'est en cinquième ou sixième position qu'ils se disent démocrates. Vous voyez, donc il y a vraiment ce... islamiste, alors il y a une baisse du rapport à la religion. Alors beaucoup de gens se moquent un peu d'Erdogan en disant, vous voyez, il était là, et finalement, il a rendu la religion, l'islam, un peu moins prégnant. Bon, tout est limité parce qu'il y a des petits partis très islamistes qui ont émergé. Mais c'est vrai qu'il y a, en particulier grâce à l'urbanisation, si vous voulez, de la Turquie, qui ces dernières années s'est accentuée, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
Vous parlez de petits partis qui émergent. On a vu émerger lors de ces élections municipales un petit parti d'extrême droite, ex-allié de l'AKP, qui s'appelle le Parti du Bien-être Social, le IRP. Quel est ce parti? D'où vient-il? Et quelles sont ses idées, Ariane?
Eh bien, ce parti a été... Alors, effectivement, c'est un parti... Lui, c'est l'islam politique. C'est-à-dire que dans la matrice qui a vu la naissance de l'AKP, qui s'appelait Vision Nationale, qui était dirigée par Erbakan, Nekmettin Erbakan, cette matrice a fait qu'il y a eu un moment une scission et Erdogan a créé un parti, disons, musulman conservateur, avec un discours pro-européen, avec un discours pas laïque, mais enfin un discours sur les droits de l'homme. Bon, il a beaucoup changé. Après, il a pris un tournant islamo-nationaliste. Et c'est comme ça qu'il a remporté les élections de 2002. Tandis qu'Erbakan, lui, est resté seul, si vous voulez. Il est resté seul et, enfin, il est resté avec une base plus islamiste. Il est mort maintenant, Nekmettin Erbakan, mais là, c'est son fils. Et il y a une part de, quasiment de revanche chez ce fils qui veut reprendre, si vous voulez, la main sur Erdogan. Donc, il n'a pas fait encore des énormes scores, mais il existe.
À propos d'émergence de personnalité, le maire d'Istanbul qui a été réélu, Ekrem İmamoğlu, est-ce qu'à l'un, on peut lui rêver un destin national? Puisque finalement, on a l'impression que c'est lui qui incarne la nouvelle opposition à Erdogan, en tout cas, vu d'Occident et vu de France.
Oui, c'est possible. C'est un homme, je crois, de 52 ans. J'ai rencontré une fois, quand il avait été élu, juste, il avait été invité, je crois, par la mairie de Paris. Et je l'avais rencontré à cette occasion. Donc, c'est un... Si vous voulez, c'est cette génération-là. C'était un entrepreneur avant d'aller dans la politique. C'était lui aussi un entrepreneur dans le secteur des BTP, je crois. C'est un ingénieur de formation. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun scrutin d'ici à la fin du mandat du président Erdogan. Et c'est en 2028. Autrement dit, l'AKP et Erdogan ont 4 ans devant eux. Et le rêve d'Erdogan, et là, ça va dépendre aussi de la composition du Parlement, c'est de changer la Constitution pour avoir un troisième mandat. Ce faisant, Ariane nous expliquera qu'il arrivera
à un quatrième mandat.
Voilà, c'est pas seulement... Mais enfin, faire encore un autre mandat, voire se faire élire à vie s'il suit le parcours de Poutine. Ça me paraît difficile parce qu'il faudrait une majorité très large, soit à l'Assemblée nationale pour une réforme constitutionnelle, j'imagine, soit il faudrait un référendum. Et quand on regarde les résultats d'aujourd'hui, on ne voit pas gagner un référendum sur un scrutin lui permettant de faire un troisième mandat. Aujourd'hui, à 67% de taux d'inflation. Mais voilà, il n'y a plus aucun scrutin avant les prochaines élections présidentielles en 2028. Et sans doute, un homme comme Ekrem Imamoglu pourra peut-être être celui qui mettra un terme à la carrière politique d'Erdogan.
Sauf qu'il y a quand même un héritage Erdogan. 20 ans au pouvoir, il laisse quand même des traces, il laisse des hommes, son gendre en particulier, dont on dit qu'il est le fameux Bayraktar, enfin le fameux patron de Bayraktar, c'est-à-dire les drones. Et alors dans le discours nationaliste, il faut savoir qu'une grande majorité des Turcs qui votent pour Erdogan ou pas sont extrêmement flattés que la Turquie devienne une puissance industrielle militaire. Donc ce gendre a quand même quelques atouts. Et puis vous avez aussi Hakan Fidan, qui a été l'ancien chef des services secrets turcs, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. Erdogan disait, il est ma boîte noire, il connaît tous mes secrets. Donc lui aussi a une place. Cela dit, Erdogan préférera toujours quelqu'un de la famille. Et c'est peut-être ça qu'il va préparer s'il ne se présente pas. C'est ça qui va préparer des hommes d'une autre génération, plutôt du même âge que Ekrem İmamoğlu.
On va parler des positions turques sur le plan international. Juste avant, Ariane, est-ce qu'il est possible pour Erdogan, constitutionnellement, de faire cette modification? Est-ce qu'il a suffisamment de soutien à l'Assemblée? Je ne connais pas la constitution turque, mais est-ce qu'il a, il a la possibilité de le faire avec les forces en présence?
Alors, je suis d'accord avec Alain, ça sera très compliqué. Et puis surtout, quel est le contenu de cette constitution? Parce qu'il a déjà fait des réformes constitutionnelles en 2017, où il a renforcé le système présidentiel. Et là, la constitution, est-ce que ça va être, par exemple, de toucher à la laïcité? Parce que vous savez que, normalement, la constitution actuelle, l'article 1, c'est l'affirmation de la Turquie comme pays laïque, et on n'a pas le droit d'y toucher. Les réformes constitutionnelles ne pouvaient pas y toucher. Alors là, je peux vous dire que s'il touche à la laïcité, ça va être compliqué, quand même. Parce que même les partis ultranationalistes sont très laïques.
Puis d'une façon générale, quand, en dehors de Poutine, quand des dirigeants comme ça essaient de se maintenir malgré triture la constitution, etc., ça se termine mal. Ça se termine par des quasi-guerres civiles. Enfin, il y a un nombre d'États qui ont apporté cette preuve. Mais vous évoquiez tout à l'heure sa puissance militaire, donc la fabrication des drones. Au service de qui, pour aujourd'hui, de la part d'Erdogan? Au service de qui met-il cette puissance? Il est théoriquement toujours membre de l'OTAN. Il avait quand même des ambitions au moment des printemps arabes de réunir sous sa houlette le régime qui émergerait ou sortirait de ce printemps. Il n'en a rien été. Comment se situe-t-il? Comment peut-il faire à la fois plaisir à Poutine, loyal vis-à-vis de l'OTAN s'il l'est, et moins agressif vis-à-vis d'Israël?
Alors, il a livré des drones, il a été un des premiers en Ukraine. Ça, c'est connu. Sur la Russie, il n'en livre pas, mais il peut y avoir des contournements avec des pièces et des montages dans d'autres usines. Et surtout, c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'il livre énormément de drones et de pièces. Vous savez, l'Afrique, c'est vraiment devenu sa nouvelle base. En Somalie, il y a une base militaire turque, par exemple. Et il y a plus d'ambassades, bon, à travers le monde, mais en Afrique particulièrement, turques que françaises. Maintenant. Et ça, vraiment, c'est sa cour beaucoup plus. Enfin, alors qu'il n'y a pas une tradition, une histoire d'Empire ottoman en Afrique. C'est en Afrique qu'il essaye de faire des partenariats militaires.
En Afrique du Nord, oui, mais pas en Afrique subsaharienne.
Oui. Et alors, par exemple, en Algérie, il livre beaucoup de drones. Il commence à y avoir un rapprochement militaire avec l'Algérie. Et je ne me souviens pas, vous m'avez posé une autre question par rapport à Israël.
Et par rapport à l'OTAN aussi, parce qu'il est censé toujours être membre de l'OTAN. Donc, si.
Alors, c'est tout le problème
des
Américains.
Dans le bras de fer avec la Russie, ça devrait compter ou peser, en tout cas.
Je parlais avec un diplomate en poste aux États-Unis et il me dit, effectivement, les Américains veulent absolument, ont vraiment besoin et ne veulent pas casser les ponts avec la Turquie. Donc, ils vont très loin dans ce qu'ils acceptent. Alors, je demandais à ce diplomate, est-ce que vous pensez que c'est bien? Il me dit, quand on est allé dans ce sens-là, c'est très difficile de faire marche arrière. Et c'est là où parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'ils avalent comme couleuvre? Alors évidemment, le rapprochement avec Israël, enfin le rapprochement, vous savez qu'Erdogan voulait faire, comme un peu le Saoudien, une normalisation avec Israël. Il a dû faire marche arrière. Et l'une des raisons pour lesquelles il a...
Marche arrière après le 7 octobre.
Voilà, c'est ça. Et l'une des raisons pour lesquelles il a perdu les élections, c'est que une certaine base qu'il avait lui a dit « mais tu es complètement incohérent, tu critiques Israël, mais en même temps tu continues à faire du commerce avec Israël ». Et en particulier, il semblerait même qu'il ait livré des pièces militaires, mais ça c'est au conditionnel, à Israël.
Est-ce que vous pensez que ce rapport avec Israël a pesé dans cette élection et a participé à cet échec ?
Absolument, dans le petit parti dont vous parliez, qui a atteint pas tout à fait 7% au niveau national, je crois, et bien là, c'est le discours est anti-israélien. Et alors, ce qu'il a essayé de faire, comme son ennemi, quand même, numéro un, c'est le parti kurde, si vous voulez, qui est alors paritaire, qui est de gauche, qui est laïque. Il essaye de pousser dans les régions kurdes un petit parti islamiste pro-charia, pro-Hamas, pro-Iran en vérité, et qui a fait quelques scores, bon, pas au niveau national évidemment, mais au niveau, par exemple, il y a eu un accord, un accord avec l'AKP, il a remporté 15% des voix à Batman, une des villes kurdes. Et donc, ça c'est le jeu d'Erdogan, c'est d'essayer de saper l'influence des partis de gauche, des partis kurdes de gauche, laïques, dont certains représentants sont assez proches du PKK, hein, qui est une organisation reconnue comme terroriste par l'Union européenne, et il essaye de les saper en poussant des partis islamistes pro-charia et anti-israéliens.
Alain.
Oui, je reviens sur cette question de la politique étrangère que posait Jean-Marie. Il faut reconnaître à Erdogan, ou à la Turquie, si vous voulez, une invraisemblable aptitude à jouer dans plusieurs camps à la fois. C'est étonnant. Par exemple, si vous allez en Ukraine, le pays qui a sauvé l'Ukraine de l'invasion russe, si les Russes ne sont pas arrivés à Kiev, c'est grâce aux drones et quasiment exclusivement, et à l'habilité de l'armée ukrainienne qui s'en servait. Mais ce sont les drones turcs, Bayraktar, du nom du gendre, c'est un ingénieur très très brillant du MIT, hein, le gendre, c'est pas n'importe qui, et ils en fabriquent ensemble. Donc il a cette aptitude à conserver une relation assez proche avec Poutine, savoir très bien jouer comme instrument de chantage de son appartenance à l'OTAN, et aussi être l'homme qui est un des hommes les plus respectés à Kiev par les Ukrainiens en ce moment, parce qu'il a très largement contribué à décimer les colonnes de chars et les 120 000 hommes de la Russie qui devaient prendre Kiev. Mais vous avez un autre exemple. Il y a quelques années, je ne sais plus à quelle occasion, il a décidé d'équiper la Turquie avec un système de défense anti-aérien russe. C'est-à-dire tout un système très compliqué de missiles qu'on appelle les S-400, mais qui suppose que l'armée turque se conforme à ce système-là, alors qu'elle est équipée de chasseurs-bombardiers américains. Et les Américains ont dit, mais si vous faites ça, nous, on arrête toute coopération, parce que si vous utilisez des S-400, ça veut dire que vous avez accès à telle et telle chose et que les Russes vont y avoir accès aussi. Et les Américains, à ce moment-là, ont suspendu un programme qu'ils avaient avec les Turcs, ce sont les usines turques qui font ça, mais d'aménagement de la flotte de chasseurs F-16 américains qu'avaient les Turcs. On en était là. Et puis arrivent les événements que vous savez, c'est-à-dire la candidature en 2023 de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il faut l'unanimité des votes. Alors là, Erdogan dit, et c'est typique Erdogan ça, Erdogan dit oui, ben non, moi je dis non. Je dis non pour la Suède parce que vous savez, ils ont des Kurdes là-bas, c'est un pays qui héberge le PKK, le parti kurde de la lutte armée, et donc pas question. À la vérité, non, c'est qu'ils voulaient revenir dans le programme de modernisation de la flotte de F-16 de l'armée turque. Et il l'a obtenu et il a levé son veto à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Voilà le type de diplomatie à la Erdogan, si vous voulez. Bien reçu à Kiev, comme un héros même, bien reçu à Moscou, et il arrive toujours à se débrouiller avec les États-Unis.
Et j'irai plus loin, il contourne les sanctions. C'est-à-dire que la Turquie contourne les sanctions. C'est ce que je disais à ce diplomate européen.
Les sanctions envers la Russie.
Européen,
hein. Oui, oui.
Envers la Russie, c'est-à-dire, mais quand même, les Américains acceptent ça. Alors, il me dit, bah, de temps en temps, les Américains ciblent deux ou trois entreprises turques qui contournent les sanctions. Mais une fois de plus, il dit rien. Ils ont tellement besoin de la Turquie, ils veulent tellement pas se le mettre à dos qu'ils ferment les yeux sur ce contournement de sanctions qui est quand même incroyable pour un membre de l'OTAN.
Pour finir, une dernière question. Est-ce que la Turquie d'Erdogan est un allié sur lequel peut compter Paris, Ariane ?
Je crois que au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, on a un vrai problème avec Erdogan. C'est-à-dire que...
Qui a insulté copieusement Emmanuel Macron.
qui a insulté copieusement. Mais c'est tout l'enjeu d'Emmanuel Macron, c'est d'apprendre à gérer ces autoritaires, ces illibéraux. Il n'est pas le seul, hein, Erdogan. Ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Comment on fait avec ces gens-là? Alors, parfois, on a l'impression que Macron prend un certain nombre d'éléments du registre de ces hommes-là, mais il ne va pas aussi loin. Mais enfin, parfois, on sent qu'il y a une façon de se montrer un peu fort, par exemple, de se faire prendre en photo en train de boxer. Ça, je peux vous dire qu'ici, ça a été un peu ridicule, mais ça peut être entendu par ces pays-là.
Pour nous, c'est un allié encombrant mais indispensable, la Turquie, Alain.
Je ne sais pas, si vous voulez, pour moi, d'abord, c'est quand même pas un pays que je connais très bien, mais c'était un pays stratégiquement important d'Union soviétique, puisqu'il était à la frontière. Donc, c'était un pays à la frontière, c'était un pays où il y avait un déploiement, d'ailleurs, il y a toujours une grande base américaine en Turquie. Honnêtement, je ne sais pas, quelquefois, on a envie, c'est comme la Hongrie au sein de l'Union européenne, on a envie de dire non, d'arrêter de céder au chantage en permanence.
Puis il y a le problème des communautés turques, hein, la communauté turque en Allemagne, la communauté turque en France, qui est bien moins importante, mais néanmoins, et dont Erdogan peut jouer pour faire pression ici ou là sur tel ou tel gouvernement, gouvernement allemand, gouvernement français, et surtout vis-à-vis de la France, l'implantation en Afrique, qui n'est pas neutre, je veux dire, on parle beaucoup de la Russie et de la Chine, qui sont en effet en lieu et place de la France dans un certain nombre de pays, mais comme l'a rappelé Ariane, il faut compter aussi avec la Turquie.
Vous savez qu'il y avait un ministre passé qui avait dit qu'il faut s'allier avec la Turquie. Il y a bien des années, c'était Bernard Kouchner. Il faut s'allier avec la Turquie en Afrique.
Merci Ariane pour cet éclairage, cette analyse des élections municipales en Turquie. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, votre chronique dans Le Monde ce jeudi traite de quoi ?
Le blitz des exportations industrielles chinoises en Europe.
Jean-Marie, votre émission politique sur France 24.
La situation politique française au seuil des européennes.
Merci à tous les trois et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
Au revoir Christophe.
Au revoir Christophe.
Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron.